Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 11 septembre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer, les titres. Au Maroc, course contre la montre pour trouver des survivants suite au séisme qui a fait plus de 2100 morts. Au Gabon, pour le Premier ministre Raymond Nongsima, une transition de 24 mois pour des élections est un objectif raisonnable. Au Niger, le régime militaire accuse la France de préparer une agression. Paris dément. Au Mali, des groupes armés du Nord disent se préparer aux hostilités. Au Burkina Faso, levée de la suspension de la radio privée Omega. Au Vietnam, le président américain Joe Biden célèbre une coopération renforcée. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Des pays du monde entier ont proposé leur aide au Maroc, touché par un séisme dévastateur qui a fait au moins 2100 morts. Les secouristes volontaires et membres des forces armées s'activent pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres dans des villages rasés par ce puissant séisme au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. Un deuil national de 3 jours a été décrété samedi. Nani Talani.
Selon la télévision publique, plus de 18 000 familles ont été affectées dans la province d'Al-Haouz. L'Espagne déploie au Maroc 2 équipes de 86 secouristes avec 8 chiens spécialisés dans la recherche de victimes. Les États-Unis se disent prêts à fournir une assistance significative, y compris des équipes de recherche et de sauvetage, ainsi que des fonds. La France mobilise ses équipes techniques et de sécurité avec une équipe de pompiers bénévoles français déjà sur place. Le Secours populaire français a débloqué 100 000 euros pour les victimes. La Suisse offre des abris temporaires, du matériel de traitement et de distribution d'eau, des installations sanitaires et des kits d'hygiène. La Belgique active son service de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger. La région flamande, où vit une forte communauté marocaine, a annoncé une aide d'urgence de 200 000 euros par le biais de la Croix-Rouge. La Wallonie s'est engagée de son côté à dégager une aide immédiate de 500 000 euros. L'Italie propose l'aide de son agence de protection civile et de ses pompiers, tandis que l'Église catholique a envoyé 300 000 euros par l'intermédiaire de Caritas Italie. La Turquie propose l'envoi de 265 secouristes et de 1 000 tentes. La Pologne, Israël, l'Irak et la Jordanie et le Qatar se tiennent prêts à fournir toute assistance nécessaire. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a pour sa part débloqué 1,1 million de dollars pour soutenir le Croissant-Rouge marocain.
Gabon, un délai de 2 ans est un objectif raisonnable avant les élections libres promises par les militaires ayant renversé le 30 août le président Ali Bongo Ondimba. C'est ce qu'a dit hier à l'AFP le premier ministre de transition Raymond Nongsima, civil nommé premier ministre jeudi dernier par les militaires. Selon lui, cette période pourrait être légèrement supérieure ou inférieure. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections au terme d'une période dont il n'a pas annoncé la durée. La nouvelle équipe gouvernementale, annoncée samedi, entre en fonction ce lundi. Au Niger, le régime militaire a accusé la France de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une agression contre le Niger. Paris a répondu ce dimanche ne reconnaître aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Eric Manirakidza.
Le colonel-major Amadou Abdrahmane, membre du régime, a affirmé dans un communiqué que la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO dans le cadre de préparatifs d'une agression contre le Niger. Les généraux au pouvoir à Niamey font état d'une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Ces manœuvres ont pour but de réussir une intervention militaire contre notre pays, selon eux. Nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, a répondu dimanche le président français Emmanuel Macron. La CEDEAO a brandi la menace d'une intervention militaire au Niger pour établir l'ordre constitutionnel, libérer le président déchu Mohamed Bazoum et le restaurer dans ses fonctions présidentielles. Une décision soutenue par la France qui compte environ 1500 soldats dans le pays dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. À Niamey, depuis plus d'une semaine, des Nigériens manifestent chaque jour aux abords d'une base militaire abritant des soldats français pour réclamer leur départ. Le président Macron a déclaré qu'un éventuel redéploiement des forces françaises au Niger ne serait décidé qu'à la demande du président Mohamed Bazoum. De leur côté, la Russie et le Mali se sont déclarés favorables à un règlement politique au Niger lors d'un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Assimi Goïta, selon le Kremlin.
Au Mali, des groupes armés signataires d'un important accord de paix dans le nord du pays ont déclaré hier se préparer à se défendre militairement contre la junte au pouvoir à Bamako, faisant craindre une reprise des hostilités Yacouba Ouédraogo.
Le cadre stratégique permanent CSP, qui réunit ces groupes, a appelé dans un communiqué les civils à s'éloigner des installations et des lieux d'activité militaire. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, qui fait partie du CSP, a affirmé samedi soir avoir abattu un avion de l'armée malienne après un bombardement sur ses positions dans la région de Gao. La mise hors de combat d'un avion de l'armée malienne par les groupes armés du Nord serait un acte inédit au cours des dernières années. L'armée malienne a parlé d'incidents concernant un de ses appareils sans plus de détails. Le gouvernorat de la région de Gao a instauré un couvre-feu nocturne de 30 jours, de 20h à 6h du matin, heure locale, jusqu'au 9 octobre inclus. Les régions de Gao et Tombouctou sont le théâtre depuis quelques semaines d'une succession d'attaques djihadistes, mais aussi d'accrochages impliquant armées maliennes et groupes signataires de l'accord d'Alger. Ces tensions font plus que jamais redouter la réouverture du front entre l'armée malienne et les groupes à dominante Touareg qui ont combattu l'État central à partir de 2012 avant d'accepter un cessez-le-feu en 2014 et de signer en 2015 l'accord de paix dit d'Alger. Le cadre stratégique permanent prête à la junte au pouvoir depuis 2020 une stratégie de rupture du cessez-le-feu.
Au Burkina Faso, après un mois de suspension, le gouvernement a décidé hier de la lever de la mesure de suspension de la diffusion des programmes de Radio Omega à compter de ce lundi. Le gouvernement dit lever la suspension suite au recours de l'Observatoire burkinabé des médias qui, dans une correspondance au ministre de la Communication, a demandé de plaider auprès des plus hautes autorités pour la levée de la suspension des émissions de la station, peut-on lire dans le communiqué. La diffusion de Radio Omega avait été interrompue il y a un mois suite à l'interview d'un opposant au régime militaire au Niger. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré fait le point.
Le gouvernement, dans son communiqué, dit avoir examiné avec beaucoup d'attention la requête formulée par l'OBM, l'Observatoire burkinabé des médias, à la demande de Radio Omega et entendu l'argumentaire selon lequel l'équipe de la radio a tiré les leçons de cette sanction dont elle a fait l'objet. Le gouvernement explique qu'il n'a pas de raison de douter de la noblesse de la démarche de l'OBM et donne une suite favorable à la requête de l'Observatoire. Par la levée de la mesure de suspension de la diffusion des programmes de Radio Omega à compter du 11 septembre 2023. Le gouvernement qui a dit demeurer et attaché à la liberté d'opinion et de presse ainsi qu'à l'exercice responsable du métier de journaliste a cependant réaffirmé son opposition ferme à toute conception étriquée, dit-il, qui consacre le droit de porter dans l'espace public la justification intellectuelle de l'asservissement et de la barbarie contre les peuples en lutte pour leur dignité et leur souveraineté au nom d'un principe paradoxal de liberté qui, in fine, assassine la liberté. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Sur le plan international, le président américain Joe Biden a prédit hier le début d'une ère de coopération encore plus grande avec le Vietnam et il s'est défendu de vouloir isoler la Chine. Monsieur Biden s'est rendu à Hanoï sur la lancée du sommet du G20 à New Delhi et avec le même objectif, affirmer la puissance américaine en Asie aux portes de la Chine. Joe Biden a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique étendu entre Washington et le Vietnam, le plus haut degré de proximité diplomatique possible. Nous approfondissons notre coopération dans le domaine des technologies émergentes essentielles, notamment en ce qui concerne la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs plus résistante, a déclaré Joe Biden.
En Sierra Leone, le gouvernement a mis en place une commission pour revoir les tarifs de l'électricité qui pourraient doubler. Cela fait suite aux délestages qui ont frappé la capitale Freetown après que le fournisseur turc Karpowership a coupé l'approvisionnement en électricité en raison d'une dette impayée d'environ 40 millions de dollars, a déclaré le ministre de l'Énergie, Konja Sesai. Selon lui, le montant impayé s'est accumulé au fil du temps car le gouvernement subventionne plus de la moitié du coût de l'électricité. Djibouti a inauguré le parc éolien Red Sea Power de 60 MW, augmentant ainsi sa production d'électricité de près de 50% et réduisant sa forte dépendance à l'égard de celle importée. Le parc, d'une valeur de 122 millions de dollars, avec un potentiel de production de 300 MW, permettra d'éviter des tonnes d'émissions de gaz à effet de serre et jouera un rôle essentiel contre le changement climatique. Plus de 70% de l'électricité consommée par les Djiboutiens provenait de l'Éthiopie voisine. Pour terminer, la Banque mondiale a annoncé vendredi un nouveau financement de 340 millions de dollars pour aider le Tchad à faire face à plusieurs crises, dont 90 millions de dollars pour répondre à l'afflux de réfugiés fuyant le conflit au Soudan voisin, a-t-elle déclaré dans un communiqué.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec les qualifications pour la CAN 2024 et la Gambie tient sa qualification.
Oui, les Scorpions ont validé leur qualification grâce à leur nul 2-2 face au Congo-Brazzaville. Ils terminent donc deuxième du groupe G avec 9 points derrière le Mali.
La sentence est tombée aussi dans le groupe I et L.
Tout à fait. Avec les qualifications de la Mauritanie, après son succès de 1 sur le Gabon et de la RDC victorieuse 2-0 du Soudan. Et c'est le Mozambique qui accompagne le Sénégal dans la poule L suite à sa victoire 3-2 face au Bénin. Les derniers tickets seront attribués ce mardi dans le groupe C au terme du match Cameroun-Burundi à Garoua.
La pétanque, maintenant avec la Coupe du Monde qui se déroule au Bénin.
Oui, et ça se passe au pied de l'Amazone à Cotonou. Plusieurs confrontations ont déjà eu lieu avec le bon comportement des ténors, notamment la Thaïlande, la France ou encore le Bénin. Le programme est alléchant ce lundi avec les matchs à élimination directe. Les huitièmes de finale en single homme et dame, pareil en doublette miss.
Autre mondial, celui de rugby, est entré réussi pour l'Afrique du Sud.
Les Sud-Africains, tenants du titre, n'ont pas tremblé devant l'Écosse qu'ils ont battue 18-3. La veille, l'autre équipe africaine engagée dans cette Coupe du Monde en France, la Namibie, a été sévèrement battue par l'Italie 52-8.
Du basketball pour terminer avec le sacre de l'Allemagne au Mondial en Indonésie, au Japon et aux Philippines.
Exactement, Idrissa. Après avoir passé la Lettonie en quart et battu les États-Unis en demi-finale, les hommes de Gordon Herbert ont dominé la Serbie en finale 83-77. L'Allemagne remporte ainsi le premier titre mondial de son histoire. Le Canada termine troisième après avoir remporté le match de classement devant les États-Unis, score 127-118.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, plus d'un mois après le coup d'État militaire, face à l'impasse entre la junte au pouvoir à Niamey et la CDAO, les sanctions économiques sont toujours maintenues. Elles frappent durement les populations, surtout celles qui vivent dans les localités proches des frontières fermées. Un exemple, Gaïa, à la frontière entre le Niger, le Bénin et le Nigeria. Un reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Carrefour entre le Bénin, le Nigeria et le Niger. La ville de Gaïa, dans le sud-ouest nigérien, concentre aujourd'hui tous les éléments descriptifs de ce que vivent les populations à la suite des sanctions économiques imposées au Niger depuis les événements du 26 juillet dernier. Pratiquement plus rien n'entre et ne ressort des frontières. Haruna est commerçant.
La plupart de nos clients viennent du Bénin et du Nigeria. Depuis que la frontière est fermée, nous avons un manque à gagner parce que nos clients du Bénin et du Nigeria n'arrivent plus à avoir accès à cette ville. Et nos recettes ont considérablement baissé. C'est réciproque aussi pour les Bénin et les Nigeria. Ils en souffrent aussi de la fermeture de cette frontière. Les Béninois et les Nigériens, disons, nous sommes tous des frères. Les Béninois et les Nigériens se ravitaillent à partir du Bénin, ils se ravitaillent à partir de Gaïa, ils se ravitaillent aussi à partir du Nigeria. Vous voyez, non, c'est un commerce circulaire qui se passe à ce niveau-là. Et tout le monde en souffre.
Iliassou est le responsable de la structure locale des transitaires. La situation a fortement impacté leur activité.
Tous les bureaux sont fermés. Pour qu'il y ait des déclarations, pour qu'il y ait transit, il faut d'abord des marchandises. Et voilà que nous avons des marchandises qui sont bloquées et de l'autre côté. Donc vraiment, et pour le sacrifice, pour tout, on se donne. Mais ça impacte beaucoup sur l'économie de la région.
À la gare, des gros porteurs, de centaines de véhicules sont stationnés. Deux conducteurs, un Béninois et un Togolais, nous racontent leur calvaire.
Vraiment, avec le temps, là, ça ne va pas. On est bloqué. Bon, pour manger aussi, c'est un problème. Parce que les vendeurs n'arrivent pas à venir ici. Pour nous-mêmes, on va aller en ville pour chercher manger, préparer avec les apprentis, vous voyez. Bon, ça ne va pas.
Ici, c'est un calvaire, c'est un véritable calvaire. Les conditions de vie sont très misérables. Vous voyez, pour avoir accès à la nourriture, même celles qui vendent là, elles ne viennent plus. Et actuellement, dans le parc, même pour préparer, on n'a pas de charbon.
L'embargo sur le Niger frappe même les produits pharmaceutiques. Dans les officines, les vendeurs s'inquiètent pour les jours à venir.
On a plusieurs produits qui sont en manquant. On a surtout les produits antipaludiens. On est en manquant, quoi. Beaucoup, beaucoup mieux.
On n'a pas assez de produits. Vraiment, il y a un manque de la non-disponibilité des produits.
On a du stock, mais je suis sûr, dans les jours à venir, on va voir les premières ruptures qui vont apparaître. Et surtout, les ruptures vont sûrement toucher, puisqu'on est en pic palu, c'est les médicaments qui traitent le paludisme. Et tout ce qu'il y a comme symptômes. Le stock disponible, on dira qu'on peut tenir encore pendant au moins 1 à 2 mois.
Presque tous ont un seul et même souhait, voir rapidement la levée des sanctions pour le bonheur des populations. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Sénégal, la coalition au pouvoir a fait son choix pour la succession de Macky Sall. Après plusieurs semaines d'incertitude, le Premier ministre Amadou Ba a eu la faveur de la conférence des leaders de la majorité. Un choix qui divise déjà, poussant le président Sall à appeler à l'unité. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagui.
La coalition au pouvoir Benno Bokuyakar a choisi l'actuel Premier ministre Amadou Ba comme candidat à la présidentielle de février 2024. Un choix mûrement réfléchi d'après Moustapha Niass, ancien président du Parlement sénégalais et numéro 2 de la coalition.
Les critères de sélection ont ciblé des compétences professionnelles, une carrière diversifiée, des fonctions déterminantes et transversales dans l'État. Notre décision a été également motivé par les qualités d'humilité, d'écoute pour diriger, pour rassembler dans Benon et au-delà de Benon, ici et dans la diaspora. C'est dans cet esprit que nous avons retenu M. Amadou Ba, actuel Premier ministre, comme candidat de Benon, Bokeyakar et de la grande majorité présidentielle pour l'élection présidentielle de février 2024.
Ce choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba fait déjà grincer des dents parmi les cadres de la coalition au pouvoir. Le ministre de l'Agriculture, Alingou Ndiaye, a annoncé sa démission et d'autres devraient suivre. Devant cette situation, le président Macky Sall a appelé les membres de sa coalition à l'unité. Malade et la voix un peu altérée, le chef de la coalition au pouvoir a quand même tenu à s'exprimer.
La victoire, comme je l'ai dit dans mon message, est à portée de main puisque vous savez, notre coalition est quand même très largement majoritaire dans le pays. Le seul défi, c'est l'unité. Je crois que le message a été très clair et les leaders se sont engagés. Nous allons poursuivre à construire ce discours de l'unité.
Conscient des enjeux actuels, Macky Sall estime qu'il est essentiel d'orienter leurs actions futures vers la jeunesse qui est tournée vers l'immigration clandestine.
Et nous allons continuer les efforts de développement, de protection sociale des populations et surtout nous occuper davantage et plus de la jeunesse. Nous avons fait beaucoup de choses, mais vous savez, le défi majeur de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Nous avons un poids démographique qui est au-dessus des capacités des États et donc, malgré les efforts qui sont faits, ils ne sont pas suffisants. Et cette douloureuse question de la migration nous peine au plus haut niveau et donc ce sont des priorités là autour desquelles nous devrons vraiment consacrer tous nos efforts. Je vais parler au nom des gouvernements qui vont venir, je souhaite que ce soit le gouvernement de ma majorité.
Au sein du pouvoir, le choix de Amadou Ba comme candidat à la présidentielle de février 2024 n'est pas une grande surprise, même s'il ne fait pas l'unanimité. Pour beaucoup, la coalition Benno-Bokeyakar ne pouvait pas rester indemne après le renoncement de Macky Sall à un troisième mandat. En face, les candidats de l'opposition comme Khalifa Sall, Karim Wade et Idrissa Seck sont les mieux placés pour profiter d'un effritement de la coalition au pouvoir. Serina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Au Gabon, c'est la grande rentrée des classes pour le gouvernement de transition. L'équipe du Premier ministre Raymond Ndong Sima se caractérise par un effectif réduit de 26 membres contre près d'une quarantaine pour la précédente. Si plusieurs nouveaux visages y font leur entrée, trois retours sont enregistrés avec 6 femmes, dont Camélia Doutoum Leclerc, reconduite à la tête du département de l'éducation nationale. Le nouveau gouvernement gabonais n'aura visiblement pas d'état de grâce. Il doit rassurer les citoyens partagés entre doute et espoir sur l'avenir de leur pays, désormais contrôlé par les militaires. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Éric Ndong n'attend pas moins de la nouvelle équipe gouvernementale qui entre en fonction aujourd'hui. Selon lui, elle doit marquer la rupture dans la gestion des affaires publiques.
Ce qu'on attend du nouveau gouvernement, c'est que le nouveau gouvernement puisse se mettre au travail. Hein? Que ce qui n'a pas été bon dans le passé puisse être corrigé.
Sous Ndong Sima, le cabinet a été renouvelé à plus de 90%. L'année n'est pas l'essentiel pour certains Gabonais. D'après Fabrice Obaka, il doit créer des emplois pour réduire le chômage.
Le pays, c'est pour les Gabonais. Donc si ce sont les Gabonais, et donc, on n'a qu'à mettre tous les Gabonais à l'aise, parce que nous, on veut le travail.
Ils sont au total 26 ministres, trois anciens membres du pouvoir déchu font leur retour aux affaires. Outre Camélia Doutoum Leclerc, qui conserve son fauteuil à l'éducation nationale, Raphaël Gazouzé quitte la formation professionnelle pour la fonction publique et le renforcement des capacités, alors que Herman Imongo devient le nouveau patron de l'intérieur et de la sécurité. Dans l'ancien gouvernement, il occupait le poste de ministre des Affaires étrangères. Des promotions au mérite peut-être, mais pas de nature à plaire à Catherine. Elle est commerçante au marché Momboué de Libreville.
Pourquoi on peut encore nommer les mêmes gens, hein? On a dit qu'on change le système. L'ancien système, on change le système Bongo. Avec tant de Gabonais qui, au Gabon, il y a beaucoup de Gabonais intellectuels, tout ça là. On a encore levé, mais vous nous cachez quoi? Vous jouez à quoi?
Juste à côté de l'état de Catherine, Rachel, une autre commerçante du marché, moins radicale sur la composition du gouvernement de transition.
C'est pas toutes les têtes, certaines têtes, les anciennes têtes là qu'on ne veut plus voir. Nous sommes fatigués de ces gens parce que nous souffrons. Nous aussi, nous sommes des Gabonais. Hein? Je suis Gabonais 100% de père et de mère.
Avec le régime de transition militaire au pouvoir à Libreville, la parole se libère et les critiques fusent de partout contre les premiers pas du général Brice Oligui Nguema et ses hommes. Marcel est une activiste.
Cette population a le droit, après avoir félicité un geste, de dire « Nous ne sommes pas d'accord par ce qui est en train de se constituer. » Parce qu'il y a des choses qui révèlent nos peurs, il y a des choses qui révèlent nos doutes, il y a des choses qui révèlent l'injustice.
Sur la base d'une charte de transition fraîchement élaborée, les nouvelles autorités promettent de travailler à la relance de l'économie, à la lutte contre la corruption et à la mise en place des réformes politiques et institutionnelles. Ismaël Obianze pour VO Afrique, Libreville.
Vous écoutez VO Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, le mot d'ordre de grève lancé depuis une semaine a plus d'impact dans les zones reculées où certains enseignants ont fait l'objet de tentatives d'intimidation. Plusieurs syndicats d'enseignants sont opposés à ce débrayage initié par le mouvement On a trop supporté, en abrégé OTS, de Yaoundé Emmanuel Jultza.
La plupart des responsables des syndicats d'enseignants du secteur public estiment que le mouvement On a trop supporté n'a pas qualité d'initier un mot d'ordre de grève. Toby Mbassi Odoi, secrétaire général de la Fédération camerounaise des syndicats de l'éducation.
Quand vous insistez sur les problèmes structurels, l'organisation du système éducatif, son financement, et ils sont dans l'immédiateté, le salaire, point, arrêter le salaire, point. Dès qu'on les satisfait, le mouvement meurt. Et je parie que le mouvement n'aura plus la même ampleur, parce que d'autres ont déjà reçu leurs arriérés.
Roger Kafoufoukou, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, soutient que le mouvement OTS et les syndicats conventionnels ne peuvent pas cheminer ensemble du point de vue légal.
OTS n'est pas une structure qui a une existence ni physique ni légale. C'est une entité virtuelle.
Les syndicats comprennent que OTS est une force d'appui. Mais la loi dit que si vous soutenez quelque chose de clandestin, vous violez la loi.
Depuis le début de la grogne, le syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles normales est le seul à avoir pris fait aux causes pour ce mot d'ordre de grève. Joseph Zé, secrétaire général du SNUPEN.
Et si tu es dans le syndicat, tu dois être solidaire. Je parle syndicat ou syndicalisme. Eux, ils font ce qu'on appelle le corporatisme protestataire. Un problème qui est urgent, qui ne concerne pas tous les syndicats. Un syndicat engagé peut engager des revendications uniquement pour ce problème particulier. C'est l'ensemble du corps qui va s'enrichir d'enseignants motivés.
Sur le terrain, la première semaine de débrayage a connu des fortunes diverses, avec notamment la convocation de certains grévistes par la police. Dalat Ndjoya, l'un des responsables du mouvement, On a trop supporté.
18 de nos collègues avaient été convoqués au commissariat spécial d'Ayos. Le motif évoqué étant l'absence au poste. C'était non pas le proviseur de l'établissement où opèrent ces 18 enseignants, mais le commissariat spécial qui convoquait ces enseignants. L'absence au poste ne constitue pas l'une des consignes de rêve données par OTS. Notre soulagement était très grand lorsque nous avons lu ce message venant de la part du préfet du département du Nyon-Ifoumo qui s'est désolidarisé de cette convocation. Nous souhaitons que très rapidement, le gouvernement mettra en exécution la lettre du président de la République datée du 9 mars 2022 dans laquelle il leur demande de réaliser les revendications des enseignants.
L'État doit environ 181 milliards de francs CFA aux enseignants. Le gouvernement s'était engagé à apurer cette dette avant août 2023, ce qui n'est pas encore fait à cause de contraintes budgétaires. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.